Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, c'est une joie aujourd'hui de recevoir Roland Laneuville, prêtre des missions étrangères, pour peut-être nous aider à mieux entrer dans cette semaine sainte, dans cette communion avec les peuples, certains peuples souffrants qu'il a bien connus. Roland Laneuville, bienvenue à Question d'aujourd'hui.
Bonjour, ça me fait plaisir.
Roland Laneuville, vous avez été ordonné prêtre dans la Société des missions étrangères en 1964. Qu'est-ce qui vous motivait et vous motive encore à être missionnaire?
Bon, alors pour faire court, je pense. Alors, disons que moi, j'étais dans le scoutisme, puis dans le scoutisme, on parlait toujours, bon, le service était important, bon, pas seulement dans le scoutisme, dans la religion, le service, c'est important. Bon, alors à ce moment-là, dans le scoutisme, on parlait du plus haut service. Et ça, on se référait en parlant du plus haut service, ça, c'était le ministère ou le sacerdoce, le plus haut service. Alors, bon, moi, ça m'a appelé, ça m'a rejoint. Et, bon, alors, le plus haut service, pas ici, mais à l'étranger. Alors, c'est dans ce sens-là que je me suis découvert ou j'ai répondu à un appel vocationnel dans le plus haut service missionnaire.
Roland Laneuville, ce service vous a amené d'abord, et allons tout de suite, à Cuba en 1965. Vous êtes là jusqu'en 1979, mais revenons en 1965.
Jusqu'en 1979.
Oui, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Donc, en 1965, Cuba est communiste. C'est Fidel Castro qui est à la tête du pays. Il y a eu la crise des missiles, mais vous vous êtes envoyé à Cuba. Et quel est ce peuple que vous rencontrez?
Bon, alors on peut dire que moi, j'étais dans les premiers missionnaires qui étaient à nouveau acceptés une fois que la crise du début de la Révolution avec l'Église était calmé. Alors, à ce moment-là, le gouvernement se sentait mieux en selle, puis acceptait de nouveaux missionnaires. Alors, on était quelques-uns à partir de 63, 64, 65 qui ont été acceptés. Bon, la situation à Cuba. Bon, des fois, on dit, bon, on a bien souffert, on était des martyrs. Non, non, pas du tout. Mais on partageait la vie du peuple, les carnets de rationnement, parce que, tout était rationné, c'est-à-dire le vêtement, la nourriture, la gasoline, tout était rationné. Quand on revenait en vacances ici, aux trois ans, qu'on allait dans les pharmacies, on demandait, moi je me souviens d'avoir demandé, est-ce que je peux prendre 3 tubes de pâte à dents? Ben bon, ils ont dit, prenez tout ce que vous voulez, parce que nous, on prenait ce qui était alloué par le carnet de rationnement. Bon, je dis pour la pâte à dents, mais pour la nourriture, pour le café, pour tout, pour le vêtement. Alors, disons, un peuple qui est très, très humain, très fraternel, qui vivait les difficultés de la Révolution et qui, souffrait du rationnement, bien sûr, Mais surtout, je pense que, en tout cas en ce qui nous concerne comme missionnaires, un peuple qui souffrait de ne pas pouvoir s'exprimer librement au niveau religieux. Alors, je pense que c'était ça. C'était aussi notre souffrance parce que, je dirais de la part du peuple, mais c'était aussi notre souffrance de la part des missionnaires qu'on était acceptés, mais à la sacristie, pas sur la place publique. Alors, il fallait s'habituer à prendre, à réaliser ou à développer un rôle très humble au niveau de notre réalité pastorale. Pour les gens, c'était plus sérieux parce que pour les gens, venir à l'Église, surtout pour les jeunes, ben ça les marquait et un jeune n'était pas était pas facilement accepté à l'université si il avait été dans la catéchèse à l'église. Bon, alors pour eux, je dirais la liberté de religion, c'était plus souffrant que pour nous, qui en fin de compte, on était libre, mais il fallait aussi nous limiter dans notre rhétorique ou dans nos sermons.
On voit aujourd'hui, avec les nouvelles que nous avons dernièrement, que le peuple cubain continue de souffrir, et parce qu'il y a vraiment une exclusion, un grand pays puissant qui l'exclut vraiment d'avoir une vie. Comment, comme prêtre, comme catholique, comme croyant, on vit une situation comme ça aujourd'hui, quand on voit comment on exclut un peuple et on lui interdit même de répondre aux besoins de base de sa population? Comment on vit ça comme prêtre aujourd'hui?
Oui. Mais avant de dire comme prêtre, là, je dirais en solidarité avec le peuple cubain, là, aujourd'hui, moi, je dirais que ma souffrance, c'est de voir que le peuple cubain ne souffre pas seulement de l'exclusion ou de l'enfermement, l'embargo sur le pétrole, sur le marché, mais que, la liberté à l'intérieur du pays avec toutes les... les souffrances, du rationnement, mais de tout va pas bien. Et les gens en sont, ce que je vois, les gens sont venus, à voir qu'il n'y a pas de solution à l'intérieur du pays et malheureusement, il y en a pour une bonne part qui souhaitent que l'intervention des États-Unis se fasse à la façon dont ça a été fait au Venezuela. Alors ça, moi, non, je voudrais pas ça, mais je comprends que le peuple cubain voit aussi les failles sérieuses dans le gouvernement et qu'il puisse les voir tellement que il en arrive à désirer une intervention extérieure de cette façon-là. C'est triste.
C'est triste, en effet.
Ouais.
Roland Lanneville, allons tout de suite au Soudan. Vous y avez été missionnaire de 1986 à 1997. Vous avez été plusieurs années. Parlez-nous du Soudan. D'ailleurs, où est le Soudan situé géographiquement? Là, où est-ce que c'est situé?
Donc, j'ai été nommé au Soudan en 1986. Et je ne savais pas beaucoup où était le Soudan même. Bon, on était, comme société, on s'intéressait à prendre un projet en Afrique, mais où il y aurait aussi une présence musulmane. C'est important pour, dans notre perspective, à ce moment-là, d'être dans un endroit où on pouvait entrer en dialogue interreligieux avec l'islam. Alors, le Soudan, où est-ce que c'est? Au sud de l'Égypte, un pays arabe, moitié noir, qu'on peut considérer aussi un peu comme étant du Moyen-Orient, vu sa proximité avec l'Égypte et le monde arabe. Alors, c'est le milieu. Et nous nous sommes impliqués à ce moment-là au sud Soudan, qui était à Wau, mais c'était le temps de la guerre et ça n'a pas été facile de nous insérer à Wau. Alors, on s'est retiré sur Khartoum,
qui est la capitale.
Et on a été présent à Khartoum une dizaine d'années. Là.
Alors, il y a une guerre à ce moment-là. Et comment, comme missionnaire, vous accueillez les gens qui fuient aussi la guerre, je pense, et qui se rendent à Khartoum? Quel type de communion vous vivez avec la population qui est particulièrement atteinte par la guerre?
Bon, alors c'est des gens qui fuyaient le sud, on peut dire. On a travaillé fondamentalement avec des déplacés de guerre, déplacés de famine. C'était les deux grandes raisons, c'était la famine et la guerre, au point que, disons, à un moment donné, quelqu'un voulait retourner, il voulait retourner dans le sud, là, il ne voulait plus vivre dans le nord. Là, il dit, maintenant, je peux retourner dans le sud parce qu'il n'y a plus de famine, là. Il y a juste la guerre. Alors, c'est au point que la famine était finie, la guerre, non. Bon, c'était des gens qui souffraient à ce point de vue-là, au niveau de la famine, au niveau de la guerre. Et bien sûr, aussi au niveau de discrimination religieuse. Je dirais dans le sud moins, mais dans le nord, oui, avec... Et à ce moment-là, moi, quand j'étais à Khartoum, c'était le début du régime. Ça a été le début du régime de Bachir, qui était plus fondamentaliste en lien avec les frères musulmans, donc avec une imposition de la charia ou de la loi islamique. Bon, ça, c'était l'ambiance générale. Mais on peut dire que nous, on accueillait fondamentalement les déplacés de guerre, qui venaient de guerre et de famine, comme j'ai dit, qui venaient du Sud. Et c'est avec eux qu'on a travaillé, je dirais, au niveau de l'éducation. On avait, l'Église a organisé des écoles qu'on appelait « Save the Savable ». Sauvons ce qui peut être sauvé. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivaient là, des enfants qui pouvaient avoir 15 ans. C'était plus des enfants, mais il n'y avait pas, à cause de la famine, de la guerre, il n'y avait eu aucune possibilité d'éducation. Alors, arriver dans le Nord, si on ne leur donne pas d'éducation de base pour commencer, ben ils vont être, comment on dit ça, le cheap labor.
C'est une population qui va être vulnérable toute sa vie, ces jeunes-là.
Seulement, mais qui n'auront pas d'avenir. Alors, disons, l'Église a travaillé, nous avons travaillé avec l'Église locale au niveau de l'éducation, au niveau, je dirais, de la santé. Au niveau du catéchuménat, pour les gens, découvrir l'Évangile, découvrir le Christ auquel ils pouvaient aspirer dans le Sud, mais qui n'avaient pas eu l'occasion, parce que c'est un territoire immense et un peu abandonné. En arrivant dans le nord, un peu dans les grandes villes, dans les banlieues des grandes villes, ben là, ils se retrouvaient ensemble et il y avait possibilité d'organiser, ou nous avions la possibilité d'organiser un catéchuménat. Et, bon, les grosses paroisses avaient des catéchuménats de 3000, 4000, 5000 baptisés par année à ce moment-là.
À question d'aujourd'hui, nous recevons Roland Lanuville, prêtre des missions étrangères, et nous profitons de cette Semaine Sainte pour parler ensemble de pays et de, surtout de populations que Roland Lanuville a eu l'occasion de côtoyer, de vivre avec, de partager leur destin comme missionnaire. Et nous parlions justement du Soudan, Roland Lanuville, et vous nous parliez de cette soif du Christ. Et cette soif de paix aussi.
Cette soif du Christ, cette soif de paix, bon, la soif de paix, elle continue encore. De fait, nous, en travaillant avec les déplacés du Sud, souvent, toujours plutôt, leur perspective, c'était « il faut avoir notre pays ». Bon. On disait, oui, très bien, vous voulez avoir votre pays, le Soudan, le sud du Soudan, ils l'ont eu. On avait nos questions, nos réticences, parce que, oui, on dit, le sud, on va se débarrasser du nord, puis là, on va faire notre pays, puis tout va bien aller. Alors, on disait, oui, tout va bien aller, mais quand vous serez entre vous, là, il n'y aura pas de problème entre les différentes ethnies, les Dinka, les Nuer, les Andes, non.
C'est ce qu'ils vous répondaient, que ça, en ayant leur pays, ça irait bien.
Tout va se régler.
D'accord.
Ils ont eu leur pays, finalement, en 2011. Et tout de suite, les rivalités entre ethnies ont ressurgi et le pays, le Soudan du Sud, est un désastre. Un désastre. Il ne réussit pas à se remettre sur pied. Mais moi, ce n'est pas là que j'ai été impliqué. Là, j'ai été impliqué dans le Nord. Alors, dans le Nord, le Nord a accepté la séparation du Sud, de mauvais gré, mais l'ont accepté, l'ont respecté. Mais maintenant, entre le Nord, entre les différentes sections du Nord, arabes ou noirs arabisés, ben, il y a de sérieuses questions. Et actuellement, c'est la guerre civile entre deux factions militaires qui n'est pas, définie par les questions ethniques ou tribales d'abord. C'est simplement des chefs militaires, l'armée régulière ou le chef de l'armée régulière qui s'oppose au chef d'une armée de mercenaires qui représente un secteur important du pays. Et les deux sont en guerre pour avoir le pouvoir ils se l'étaient partagé après un gouvernement civil qui avait été établi suite à une révolution très bien faite. Comment bien faire une révolution? Suite à une révolution qui avait renversé le gouvernement de Bachir à l'époque, bon, il y a eu différents moments, des difficultés, mais un gouvernement civil Et avec l'aide des militaires, c'était établi. Il a été renversé par les deux factions militaires qui se sont établies et qui sont maintenant divisées. Et le pays est
en ruine.
En ruine.
Il y a beaucoup de victimes, et j'imagine que les femmes et les enfants...
13 millions de déplacés.
13 millions de déplacés.
13 millions de déplacés. Bon, combien de millions à l'extérieur du pays, au Tchad, entre autres? On a eu des beaux reportages ici à Radio-Canada de Sophie Langlois en faisant des entrevues à la frontière du Tchad. Triste. On peut imaginer que sur ces 13 millions de déplacés, là, j'ai lu les chiffres, mais c'est 3 ou 4 millions d'enfants qui n'ont plus d'école, plus d'éducation.
Et ça risque de durer longtemps, et donc leur avenir est vraiment très, très compromis. Bon, Roland Laneuville, vous continuez donc de suivre la situation au Soudan. Vous sensibilisez autour de vous les gens de ne pas oublier le Soudan.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Comment vous faites ça?
Alors, sensibiliser les gens autour de moi, ben, c'est-à-dire je le fais à ma façon. J'ai eu l'occasion l'an passé, à partir d'une invitation pour une célébration de sœur Sainte Joséphine Bakita, une Soudanaise esclave, originaire du Darfour. Elle ne savait pas très bien elle-même d'où elle venait, mais on estime que c'est du Darfour. Une esclave... prise par les négriers,
les trafiquants.
À ce moment-là, et qui a été revendue quelquefois, finalement à un consul italien qui l'a amenée en Italie. Elle est devenue chrétienne, religieuse et sainte. Et qui est proclamée la patronne de tous ceux et celles qui luttent contre le trafic humain. Le trafic humain, ça existe encore au Soudan, mais ça existe un peu partout.
Un peu partout dans le monde.
Un peu partout. Puis là, disons, j'en suis plus conscient au Kenya, parce que c'est là où j'ai des gens là, qui s'y impliquent.
Et vous avez été missionnaire au Kenya de 2009 à 2018 aussi. Donc, c'est un pays que vous connaissez très bien. Nous aurons peu de temps pour aborder le Kenya. Roland Laneuville, mais dans la perspective de cette semaine sainte, qu'est-ce que vous portez dans votre cœur par rapport aux pays où vous avez été missionnaire, Cuba, Soudan, Kenya? Qu'est-ce que vous portez pour cette semaine sainte dans votre cœur?
Bon, alors, je pense que nous avons toujours la possibilité de nous solidariser dans la compassion. Souffrir avec ces gens-là qui sont pris en esclavage de quelque façon. Là, je pense à ceux du Kenya, hommes et femmes qui sont attirés dans des traquenards pour leur promettre du travail à l'étranger comme... pour les meilleures choses, comme ingénieur, comme n'importe quoi, avec des bons salaires et qui finalement aboutissent comme esclaves sexuels ou esclaves domestiques. Alors ça, disons, les gens que je connais au Soudan s'impliquent dans ce domaine-là de lutter, de sensibiliser les gens de ne pas tomber dans ces traquenards-là. Alors, la compassion, disons, être informé de ça, c'est déjà participer à, avec compassion à la, je dirais, à la souffrance, au chemin de croix, à la passion du Christ aujourd'hui. Là.
Roland Lanneville, prêtre des missions étrangères, un immense merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Bienvenue.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci à vous pour votre écoute. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.